Ok. Alors, c'est pas un cours, hein, c'est une étude. Ah, c'est pas la même chose. Ok. Donc, c'est la Mishnah d'Afnunchet Amud Bet dans Maseret Baba Metzia parle de Onat Devarim. Il y a deux sortes de Onaha. Il y a Onat Mamon. C'est-à-dire que. N'écrivez pas.
Madame.
Je vous en supplie.
Madame. Non, c'est pas ça, c'est que en fait, ça mon mari, il voulait que je lui répète un petit peu.
Alors, regardez, c'est le dernier chapitre du livre.
Ok, bon, ok. Alors, okay.
Non, ce que je veux dire, c'est. Je n'ai rien à dire, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire. Donc, ça ne sert à rien.
D'accord, si vous le dites.
Non,
okay.
Non, mais même, ça va même.
Vous gênez quoi après,
non,
après,
ça va vous gêner vous.
D'accord.
Ça va vous gêner vous parce
c'est
que.
C'est l'enseignant qui parle.
Ça ne sert à rien. Vous allez voir, ça ne sert strictement à rien. Moi, j'ai rien à dire, perso. On va travailler ensemble, donc...
Alors, Onaha, c'est quoi
ouais, alors, Onaha. Il y a deux types de Onaha. Il y a Onat Mamon, c'est-à-dire on n'a pas le droit de gruger quelqu'un sur les prix. C'est-à-dire, voilà, je dis ça, ça coûte 50 euros, c'est pas 50 euros. Ouais, on s'écrit dessus, mais disons, imaginons que ça ne soit pas écrit. Tromper quelqu'un sur le prix... c'est un interdit de la Torah. Okay. Mais il y a aussi onahat devarim, c'est-à-dire vexer quelqu'un. Vexer quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un, il mange kasher, mais il vexe, il a transgressé les interdits de la Torah. On est mal parti.
C'est le même pasouk, ish lotonou, ish atachib.
Ouais, c'est enfin, il y a des ribouilles, on apprend de répétitions, de choses. Ok. Alors, voilà. Donc, fort de ça, la Gemara va développer sur le fait de vexer, de faire honte à autrui. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième ligne avant la fin de la page. Nuntret Amud Bet. J'attends peut-être une minute, hein. Donc, je disais que Daphnounret Amoud Bet dans Baba Metzia, la Gemara parle de Onat Varim. Il y a eu Onat Mamon, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de tromper quelqu'un sur le prix. C'est-à-dire que le vendeur n'a pas le droit d'exploiter la non-connaissance de l'acheteur. De la même manière, l'acheteur n'a pas le droit d'exploiter la non-connaissance du vendeur. Ça, c'est un interdit. Deuxième interdit, qui est corollaire, qu'on n'a pas le droit de vexer quelqu'un. Donc c'est mal parti. Hein. C'est ce que je dis souvent, il faudrait mieux ne pas étudier. Non, je préconise, n'est-ce pas, de ne pas étudier, parce qu'on apprend des choses embêtantes. Alors regardez, fort de ça, la Gemara va développer sur le fait de ne pas vexer autrui, de ne pas faire honte à autrui, septième ligne avant la fin de la page. Tané Tana Kame de Rav Nachman Bar Yitzhak. Tana enseigne devant Rav Nachman Bar Yitzhak. Qu'est-ce que ça veut dire Tané Tana Kame de Rav Nachman Bar Yitzhak? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi? Parce que je vais vous dire. J'ai entendu comme ça qu'il y avait des dames qui disent je vais étudier du Talmud. Ça flotte dans l'air. Eh bien, on y est. Nous y sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Tané, Tana, Kamé, des Rav Nachman Bar Yitzhak.
Il faut me rappeler les codes de lecture. Comment? Les codes de lecture, les Tané et les Tané,
voilà.
Les Tani et les Baraita. Rappelez-nous les codes.
Alors, je vous explique.
Parce que sinon, on va être paumé très très vite.
Je vous explique. Voilà. Je vous explique. Que il y a la Mishnah. Après la Mishnah, il y a les Amoraïm. Alors, pour les personnes qui viennent d'arriver, je vous dis, c'est une étude, c'est pas un cours. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous dire, ce qu'on va voir. Je l'ai déjà enseigné tellement que j'ai fait un chapitre, c'est le dernier chapitre de mon dernier livre. Mais j'oublie ce que j'ai dit. J'oublie. Voilà, c'est oublié. Voilà. Alors, il y a la Mishnah. Les auteurs de la Mishnah s'appellent des Tanaïm. La Mishnah, ça a été terminé d'être rédigé par Rabbi, qui était vers 200 de l'ère commune. Ça, grosso modo, 200 de l'ère commune. Bien. Ensuite, il y a les Amoraïm. Amoraïm, c'est sur plusieurs siècles, 250 ans grosso modo, c'est les discussions qu'ont soulevé les Mishnayot. Pourquoi ? Parce que les Mishnayot, c'est un corpus non homogène. D'ailleurs, parfois on voit dans la Gemara que dans un traité, Rabbi et ses pères ont tranché l'Halakha d'une certaine manière, et deux ans après, quand ils ont traité un autre sujet, un autre traité, sur le même sujet, ils ont décidé autrement. Ah, dit, mais pourquoi ils ne sont pas revenus ? À partir du moment où ils sont arrivés à cette conclusion, Kivan chez Mishnah lo zazamim koma. Ils sont arrivés à un moment à cette conclusion, après ils sont arrivés à une autre conclusion, et ben ils n'ont pas bougé la première conclusion. Ils ne sont pas revenus. Alors.
Ils ont oublié.
Comment ?
Ils ont oublié ce qu'ils ont
dit. Pas du tout. Non. C'est-à-dire que c'est le produit d'une réflexion qui aboutit à un moment T plus 1, ils sont aboutis à une autre conclusion. Mais il faut comprendre, et ça c'est fondamental, ça vous pouvez l'écrire, que c'est de la tradition orale. Bien que ça soit écrit, c'est oral. Et pendant des siècles, ils ont repris les Mishnayot et en soulevant tous ces problèmes. Comment ça se fait que là c'est comme ça, là-bas c'est autrement, et pati, et patata, voilà, ça c'est la Gemara. Grosso modo, pendant 250 ans. Et ça a été terminé, ce travail, c'est la rédaction du Talmud de Babylone, en Irak. Hein. Je dis, on est tous des Irakiens, et grosso modo, ça a été rédigé à Pumbadita. Pumbadita, comme chacun sait, en arabe, c'est Fallujah. Là où il y a eu, là, pendant 13 ans, 14 ans, des guerres terribles, il y a eu trois grandes batailles de Fallujah. Fallujah, c'était des batailles grosses comme Verdun. Et bien Fallujah, c'est Pumbadita, c'est là où le Talmud a été rédigé. J'ai vu ça parce que une fois, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre sur les guerres là, qui sont passées en Irak. Et voilà, Fallujah, machin, en araméen, Pumbadita. Pourquoi ? Pourquoi en araméen ? Parce que l'araméen est la langue parlée encore là-bas. Il y a deux langues là-bas, près de Bagdad, dans les régions là-bas, deux langues qui sont parlées tous les jours. Il y a l'arabe. Et la langue locale, en vérité, c'est l'araméen. C'est dans cette langue que le Talmud a été rédigé. Et il mettait donc, et vous regardez par exemple Fallujah, en araméen, qui est la langue là-bas, c'est Pumbadita. Pumbadita, c'est le Talmud qui est rédigé. Okay. Bien. Alors c'était oral. Ça a été rédigé vers 450 de l'ère commune, mais c'était oral. Comment ça se passait ? Il y avait un Tana. Un Tana, quelqu'un qui connaissait les enseignements par cœur. On appelle ça dans la Gemara un Tana. Lorsqu'on voit ici, cette ligne avant la fin de la page, Tane Tana, Kame de Rav Nachman Bar Yitzhak, il y a un Tana, c'est-à-dire, moi je dis c'est un griot. Vous savez qu'est-ce que c'est un griot ? Vous étiez au Mali une fois ? Non, vous n'étiez pas au Mali. Donc, ce n'est pas les griots. Non. Vous savez pas qu'est-ce que c'est des griots ? Non. Dans les peuples au Mali, au Sénégal, etc., en Côte d'Ivoire, ce sont des cultures orales. Et les détenteurs de la tradition orale, là-bas, s'appellent des griots. Bon. Et vous avez par exemple des grands chanteurs comme Salif Keita. Vous ne connaissez pas Salif Keita ? Vous venez à un cours de Talmud, vous ne savez pas qui c'est Salif Keita. Les jeunes.
On a révisé toute la journée
Non, mais je m'intéresse à tout et n'importe quoi. Et surtout, n'importe quoi. Ce qui fait que je sympathise assez facilement avec, par exemple, toi, je prends un taxi ou un Uber, il y a un Africain, bon, je dis, d'où est-ce que tu viens ? Il me dit, du Mali. Alors, on parle de musique. Elle dit, ah oui, je suis cousin de Salif Keita, machin, bidule, et il est tout content. Voilà, il y avait un rabbin qui écoute Salif Keita, un griot. Je ferme la parenthèse. Alors voilà, Tané, Tana, Kamé, des Ravnarban, Brissa. Un Tana, donc c'est-à-dire un Tana, c'est un enseignant oral, il enseigne des enseignements devant Ravnarban, Brissa. Ravnarban, Brissa, c'était le maître, il y avait un enseignant, il rapporte des enseignements qu'il a entendus oralement. Il enseigne l'enseignement suivant. Kolamalbin, Pene, Ravero, Berabim, qui est louche au fer d'Abim. Toute personne qui fait blanchir le visage de son prochain en public, c'est comme s'il versait du sang. Ça, c'est l'enseignement. Amarlo, il lui a dit, Shapir Kamrat, de Chazinal de Azil Sumka va te rivra. Il a dit, Shapir Kamrat, c'est en araméen. Hein? Il dit, tu as très bien parlé. On voit d'ailleurs que la rougeur part et le blanc qui vient. Ça veut dire, tu l'as fait blêmir. On constate que quelque part c'est un meurtre puisque tu l'as enlevé ça sumka c'est rouge sumka c'est le rouge ou sumac oui par exemple je pense qu'il y a des épices rouges qui s'appellent sumac hein, oui sumac dit asile par le rouge et vient rivrer le blanc donc vous voyez c'est le rave qui a entendu cet enseignement, il dit je confirme, je peux confirmer ce que tu dis. Ok. Amarle Abaye les Ravdimi. Abaye, grand maître de Babel, de Babylone, d'Irak, il dit à Ravdimi. Ravdimi, c'était, il y avait ce qu'on appelle les Nihouté. C'est-à-dire, il y avait des communautés en Israël et des communautés à Babylone. Mais les chemins à l'époque, il y a, je sais pas, 1700 ans, n'était pas tellement praticable, bien que c'est pas une grande distance entre Eretz Israël et l'Irak, mais c'était pas tellement praticable, donc il n'y avait pas tellement de passage entre les enseignements de tels des chivotes d'Israël et des chivotes de Babylone, mais il y avait certaines personnes qu'on appelle les Nihouté, eux, ils venaient et rapportaient les enseignements. On dit alors. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas en Israël ? En Israël, ça s'appelle en araméen Bemarava, en ouest. Oui, dans l'ouest. Amarle Abaye les Ravdimi. Abaye dit Ravdimi. Bemarava, Bemaizeire. Dis-moi, en ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, vos maîtres, ils vous disent de faire attention à quoi particulièrement ? Qu'est-ce que vos maîtres vous disent de faire très, très, très attention ? Amarlo, barvoré à paix. De ne pas faire blanchir le visage d'autrui. Ça, c'est ce qui nous répète tout le temps. Attention, ne fais pas honte à autrui. Surtout, ne fais pas honte à autrui. Voilà. Déama Rabbi Hanina, parce que Rabbi Hanina, il a dit A kol yordin le guinam, rutz mishlosha. Parce que l'enseignement dit. Tout le monde descend à l'enfer, sauf trois. Bon, ça ne va pas. Cet enseignement n'est pas que tout le monde descend à l'enfer. Non, pas nous quand même. Nous, on est des gens bien, on ne va pas descendre à l'enfer. Pourquoi l'enseignement tout le monde descend en enfer. C'est à Kol, Yordim, les Guinam, tout le monde descend en enfer. Non, quand même, non. À Kol, Samer Dalet, Salkadata, tout le monde, est-ce que tu penses? Non, et là, il faut dire. Kola yordim le gi'inam, tout celui qui descend à l'enfer, olim, un moment il remonte. Rutz mishlosha she yordin ven olim, sauf trois qui descendent en enfer, mais jamais ne remontent. Tous ceux qui descendent en enfer, ils rôtissent là-bas, ouais, ils rôtissent sur les braises, hein. Et plus ses affinités, mais à un moment, ils ont expiation, ils remontent. Sauf trois qui descendent en enfer, mais jamais ne remontent. Velouen. Et voilà ceux qui descendent en enfer et ne jamais remontent. Abba Aléchétiche. se va celui qui va avec une femme mariée. Va malbin penechavero berabim, celui qui fait honte à son prochain en public, va me kané shemra nechavero, et celui qui donne un sobriquet péjoratif, un sobriquet péjoratif à son prochain, va me kané shemra nechavero, celui qui donne un nom honteux à son prochain. Voilà, ça c'est les fautes les pires. Alors c'est étonnant, hein, tu pourrais dire, je sais pas, celui qui mange pas glatte, quoi. Qui mange que cher, mais pas glatte. Non, on pourrait dire, non, on pourrait dire comment ?
Celui qui tue.
Celui qui tue, celui qui fait l'idolâtrie, que sais-je, un pédophile, c'est pas bien ça. On pourrait dire, hein, pourquoi
Non, mais typiquement, surtout qu'on vient de dire que c'est comme s'il avait tué.
Ouais. Ouais.
La logique aurait
été que tuer, c'est voilà, tuer, c'est pire, c'est pas comme n'est-ce pas le meurtrier.
Il s'en sort.
Le meurtrier, c'est mal parti, mais un moment,
il remonte.
Un moment, ça remonte. Mais là, les trois là, c'est foutu. Là, c'est foutu. Alors ça, c'est un passage très bizarre. Alors, amener que Shemra les rapports. Alors là, on y me cané, Aynu Malbim. Mais non, celui qui donne un nom désobligeant à autrui, mais c'est celui qui fait honte à autrui. Si tu l'appelles le rouquin, là. Le petit gros. Et tu le fais en temps public. Ça revient au même. Oui. Amekel Shemra lever mekane aino malbim. Mais c'est celui qui fait honte. Ça revient à celui qui fait honte à autrui. Réponse de la Gemara. A falgav des dashbe bishme. Même si c'est récurrent, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est-à-dire en public, ça ne fait plus, ça n'a plus d'un impact en public. Ouais, tout le monde l'appelle, je sais pas comment il l'appelle.
Le bossu.
En Israël, toi, Tserfati, le français. Le Tserfati, ça fait 10 ans qu'il est en Israël, il appelle toujours le Tserfati. Ça va, à un moment on peut changer de. Ça va, Tserfati, ça va. Alors, mais ça fait 10 ans qu'il l'appelle comme ça, ça fait plus. Ça n'a plus d'impact en société, mais néanmoins, c'est un nom désobligeant. C'est un nom désobligeant. Voilà, ça c'est.
Je crois que Rachid dit qu'il s'est tellement habitué que du coup, même lui, il a plus de.
Que va Urgal Bekar chez Marnis Otto, chez Mekanim Otto Ken, Venaba Mitlavnot.
C'est plus Malbin.
Du coup, c'est plus Malbin, c'est ça.
C'est-à-dire, il ne blanchit pas, mais Mikol Makom, Zé l'Achnimo Mitkaven, mais lui, l'autre, il veut quand même lui faire quelque chose de désobligeant. Il y a quelque chose quand même.
Le mec s'est habitué à ça, ça lui fait même plus rien.
Non, c'est quand même, non, tu forces le trait.
Ah.
Force le trait. Je traduis précisément Rashi. Vous voyez, Rashi, c'est la colonne de gauche en bas. Des Dashbé, bien qu'il en ait l'habitude, que va Urgal Bekar. Il a déjà pris l'habitude chez Mekanim Otoken, qu'on lui donne ce sobriquet. Ve'en panav mitlavnot. Son visage ne blanchit pas pour cela. Parce que, bon, c'est. Mikol makom zeler limo mitkave. Mais l'autre. Il a quand même l'intention de lui faire honte. Il y a quand même une atteinte. Il y a une atteinte.
Une volonté.
Une volonté.
Moi, je n'aurais pas compris qu'il y a une atteinte. Il n'y a plus que la volonté.
Mais
quand bien même elle n'a pas d'effet,
geste chez moi... Non, il ne dit pas que ça n'a pas d'effet. Mais l'autre, il fait dans un but quand même de l'abaisser. L'autre, il l'abaisse quand même. Ok. Alors, bien évidemment, ce passage est très très bizarre parce qu'on pourrait imaginer que il y a pire, quoi. C'est on l'appelle bon, le petit gros, ça va. Bon, on l'appelle le Jinji, le gros, le rouquin. Bon, ça va. Ça va. Il y a pire, quoi. Alors, et aussi, pourquoi celui qui va avec une femme mariée, et pourquoi pas celui, je sais pas, un homosexuel, par exemple. On pourrait dire, on pourrait imaginer, ou un acte de bestialité, que sais-je. Alors, vous savez que le Maharal de Prague, a, donc, au XVIe siècle, le Maharal de Prague, c'est, à l'époque du Maharal, commençait à y avoir des gens qui allaient à l'université non-juive. En particulier en Italie, à Bologne. À Bologne, commençait à y avoir des gens qui allaient à l'université. Et en particulier, quelqu'un qui s'appelait Azaria di Rossi, qui est devenu un grand médecin, un grand philosophe, et qui était un grand talmudiste. Et il a écrit un livre qui s'appelle Meirat Enaim, Meor Enaim, où il a abordé les passages comme ça, qui ne sont pas des passages strictement juridiques, mais des passages, on pourrait dire, métaphysiques, en disant que ces passages ne sont pas logiques, ne tiennent pas debout. Et il y avait, à l'époque du Maharal, donc au XVIe siècle, c'est la Renaissance, hein, il y avait beaucoup de gens qui contestaient de la communauté, contestaient le bien fondé du Talmud.
C'est Agadot, en fait.
Et alors, le Maharal s'est donné comme mission d'expliquer, pas jusqu'au bout, mais donner des clés de ces passages qui, en première lecture, on ne voit pas. C'est vrai que c'est un côté moral. On te dit, attention, surtout... Fais attention de ne pas faire honte à quelqu'un. Ça, voilà, ça, de ne pas faire blanchir l'usage d'autrui, ça, on a compris que c'est très, très grave. Mais la structure de l'enseignement, on ne la voit pas. Or, le Maharal a fait un travail systématique, livre après livre, d'expliquer que de la même manière que tout le monde peut comprendre que le côté juridique du Talmud nécessite un apprentissage, comme tout juriste, si vous voulez, un juriste, on ne devient pas juriste en 3 mois. Un juriste, monsieur, bref, pourra nous le dire, qu'un juriste, c'est des études. Ouais, c'est des grosses études. Donc, de la même manière, un juge rabbinique, ça, on peut très très bien comprendre qu'il y a une méthode, il faut apprendre, c'est une discipline. Mais les passages homilétiques, on pourrait dire, les passages d'Agada, ça paraît arbitraire. Et il démontre, livre après livre, que ces passages aussi correspondent à des logiques extrêmement précises, mais secrètes, qui touchent des choses très subtiles et qu'on ne peut pas dévoiler facilement. Ça demande beaucoup de maturité. Et ça touche ce qu'on appelle la Kabbalah. La Kabbalah, si on peut dire, c'est des secrets, pas seulement pour complexer les gens qui n'ont pas ces secrets, mais c'est des choses qui demandent beaucoup de maturité humaine, beaucoup de connaissances. Le Maharal aussi était donc à Prague, hein, comme on dit, le Maharal de Prague. Il faut savoir que Prague, à l'époque, était la croisée c'était, si vous voulez, je dirais Boston aujourd'hui. Si on veut avoir une idée qu'est-ce que c'était Prague, c'était Boston. C'était à la fois un centre intellectuel et un centre économique majeur de l'Europe. C'était la croisée du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Aujourd'hui, bon, j'ai jamais allé à Prague, mais j'ai l'impression, je ne veux pas faire honte aux Pragois, mais j'ai l'impression que c'est un peu... Une ville de troisième zone, quoi. Hein. Mais à l'époque, c'était un centre absolument majeur. D'ailleurs, la communauté juive était très très importante et le Maharal était en contact avec les grands mathématiciens et les grands astronomes de l'époque, Kepler et Tycho Brahe. David Gantz, qui était un grand talmudiste, élève du Maharal, était secrétaire de Tycho Brahe, qui était un des grands astronomes de l'époque. C'était l'époque des grands bouleversements. Vous savez, aujourd'hui, on dit que, oui, nous vivons une époque avec des bouleversements technologiques majeurs, etc. Alors, il y a eu, en vérité, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des bouleversements technologiques tout le temps. Il y a eu tout le temps des bouleversements, des grands bouleversements technologiques. Un de mes amis m'a dit que la Renaissance a été un grand boom dans la connaissance par l'invention des lunettes. C'était l'invention des verres qui faisait qu'avant, les gens pouvaient lire jusqu'à, je sais pas, 40 ans, et grâce aux lunettes, pouvaient lire jusqu'à 60 ans, 70 ans. Donc là, ça a ouvert c'est une manière un peu étonnante de voir les choses, mais disons, c'est des grands bouleversements. Évidemment, le 16e siècle, c'est le début de la chirurgie. Ambroise Paré, etc. C'est des très très grands bouleversements. La chirurgie, avant ça n'existait pas. La dissection, la chirurgie, ça n'existait pas du tout. C'était la médecine comme Galien, comme Hippocrate, ça n'avait pas bougé. Mais là, ça changeait du tout au tout. C'est des grands. Et le Maharal, lui, très grand talmudiste, était au fait de toute la philosophie de son époque. Alors ça, j'ai lu dans un livre. Alors, excusez-moi, je présente mon livre, parce qu'il est formidable. Et à la fin, j'explique tout ça.
Chapitre sur les...
Sur les maîtres, ouais. Voilà. Ouais. Par exemple, là, page 367. Rabbi Oudin, hein, le Maharal de Prague. Alors là, j'explique. J'ai lu dans un livre que le Maharal, c'est une génération après l'expulsion d'Espagne. Et j'ai appris d'un de mes maîtres, M. André Frankel, vous avez sûrement entendu parler de M. Frankel qui était à Strasbourg. Aaron Frankel, oui, mon nom, elle l'appelait André.
Il a chanté à Marmouzin.
Comment?
Il a chanté.
Ouais, des chants marocains, judéo-andalou.
Ouais.
Et alors, M. Frankel, j'ai entendu de M. Frankel qu'il a appris la Kabbalah avec des megourchés séfarades, avec des maîtres expulsés d'Espagne.
Néer le dit. Hein.
Comment?
Néer le dit dans le puits d'exil.
D'accord. Et je rajouterai à ça que j'ai lu dans un livre que le Maharal, son livre de chevet, c'est un livre qui s'appelle Neve Shalom, d'un rabbi Abraham Shalom, qui était un grand kabbaliste espagnol. Or, le Neve Shalom se trouve sur Hebrew Books. Tu l'as vu sur Hebrew Books? On dit que c'est un kabbaliste, mais tu lis le livre, c'est que de la philosophie. Il faut savoir que la culture en Espagne, même les kabbalistes, la culture, c'était la philosophie. La philosophie Aristote, ça veut dire, de la même manière qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un juif parisien, pieux, hein, je sais pas, il y en a. La majorité des juifs pieux ici qu'on trouve à Paris, je parle, hein, pas à Nebrak, mais à Paris, ils ont fait des maths, certains sont ingénieurs, ils sont forts en maths. Ils n'ont jamais vu un problème de faire des maths en étant Shomer Shabbat. Ça, jamais, on n'a jamais vu de contradiction. Et ben, en Espagne, connaître Aristote et ses commentateurs, Averroès, etc., tout le monde connaissait. Ils allaient à l'école juive, ils apprenaient Aristote, Averroès et tout. C'était comme ça, c'était la culture. Même les ultra-orthodoxes de l'époque, qui étaient des kabbalistes, ils connaissaient toute la philosophie. Vous prenez par exemple les grands kabbalistes anti-philosophie comme Rabbi Meir Ingabay, c'est que la philosophie, c'est-à-dire son langage, c'est un langage philosophique aristotélicien. C'était comme ça, c'était la culture. Et le Maharal, il a hérité de tout ça, et c'est un mélange extraordinaire. Je défends aussi que nous, à notre génération, en tant que juifs français, je pense que nous, on est aussi, peut-être pas la grandeur du maréchal de Prague, qui était unique. Mais on a, je pense, un devoir de développer cette croisée de chemin que nous avons aussi. Je sais pas, la plupart d'entre vous, vous avez des connaissances générales. Je vous connais pas, hein, je se vois là comme ça, mais j'imagine connaissances générales et j'imagine que vous allez aussi à des cours de Talmud. C'est pas contradictoire. Eh bien, cette rencontre, je pense que historiquement, on a quelque chose à faire avec ça. Je vous dis en toute sincérité, toute simplicité, c'est pour ça que perso, j'écris livre sur livre. Parce que je pense qu'on est à une conjoncture historique spéciale où on peut être très très cultivé dans toutes les connaissances et aussi cultivé dans la tradition juive et qu'on a quelque chose à apporter, pas seulement à notre génération, mais même peut-être aux générations à venir. Voilà. Je dis ça à mon épouse, je dis pourquoi c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui écrit des livres. C'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. On va en vacances, tout le monde va se promener, moi je reste à écrire. Donc c'est un peu relou. C'est relou. Alors, maintenant on va aborder le commentaire du Maharal. Alors, tu as les photocopies, cher Kacher?
Oui.
Salut.
Assieds-toi à côté de. Voilà. David,
Alors, c'est Nun Gimel. Nun Gimel.
Tout le monde là-bas ?
Il y en a un qui a eu deux feuilles.
Bien. Alors, on va faire mot à mot hein, le commentaire du Maharal. Ok. Donc, c'est là. Mashama Chutz Mishlosha.
En bas à gauche.
Donc, tous ceux qui vont au Guéhinnam, un moment remontent du Guéhinnam, sauf trois qui descendent au Guéhinnam et ne remontent pas. Oui, qui c'est ? Celui qui va avec une femme mariée, enfin qui va, c'est un langage pudique, hein, on se comprend, qui va avec une femme mariée, celui qui fait honte à autrui en public, et celui qui donne un sobriquet péjoratif à son prochain. On met un chamar, ce que le texte dit, sauf trois. Pirouche, explication. Da, qui colchoté, ou Raou. Ah oui, alors avant de commencer, tout le monde, tous ceux qui descendent à l'enfer, un moment remontent. Alors vous allez dire, oui, mais je croyais qu'il n'y avait pas l'enfer chez nous, avec des petits diablotins. Oui, c'est quoi cet enfer? Alors, Pirouche, da, sache, qui colchoté, ou raouille, cheye, yored, la guine. Sache que tout fauteur, c'est légitime qu'il descende à la guéhenne. Le fi, Shachote yotse minametziut la sot masim shem masim chaserim notim achar a eder. Le fikar nimshar achaze agi inam shiu makom tou vavu. Sache que tout fauteur, c'est légitime qui descend au guin. Alors lui, il va décrypter. C'est quoi le guin? C'est quoi Guéhinnam? Qu'est-ce que nos maîtres veulent dire par Guéhinnam, l'enfer? Parce que le fauteur sort de l'existence pour faire des actes déficients qui penchent vers le néant. Bon, ça, c'est des termes clés dans le Maharal. C'est des termes clés, existence et néant. Entre parenthèses. Je dis toujours à mes élèves, j'attends que quelqu'un fasse une thèse de doctorat sur le concept d'existence dans l'œuvre du Maharal. Et toc, paf, dans les dents. Voilà, c'est quoi ? On va dire comme ça. On va dire comme ça. On va prendre un exemple. Le Maharal, si on traduit... Alors, l'hébreu du Maharal est facile. C'est un hébreu limpide. C'est une langue... On ne peut pas plus facile. Quand j'ai commencé à étudier à 18 ans, le premier livre que j'ai acheté, c'est le Native Otolam. Voilà. Native Otolam. Et un kit sur Choukhanor. Native Otolam, j'ai pris un dictionnaire. C'était au bout de quelques mois d'études, tu peux traduire du Maharal. La difficulté, grande difficulté, c'est comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. C'est quoi l'inexistence? C'est quoi le néant? Ouais, on va demander à Jean-Paul Sartre qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, mais avant de demander à Jean-Solpartre, ouais, avant de lui demander, on va essayer de réfléchir par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire que celui qui faute sort de l'existence et penche vers le néant? Donc le néant, le guénab, c'est le néant. C'est l'absence d'existence. Alors, on va prendre un exemple simple. On prend par exemple, je ne sais pas, quelqu'un. Il y a des lois de Shabbat, prenons par exemple. Il y a des lois de Shabbat. Les lois de Shabbat sont très complexes. Très complexes. Mais disons, on peut imaginer que... je ne sais pas moi, Shabbat, tu es en face d'une pression... en face d'une pression, et à cause de... Shabbat doit...